Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. Le pape a reçu la délégation du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, conduite par son président, le cardinal Philippe Ouédraogo. On en reparle avant de nous rendre au Cameroun, en République démocratique du Congo et au Niger. L'actualité sociopolitique, quant à elle, nous conduira entre autres en Tunisie et en Algérie. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Lundi, le pape a reçu en audience le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, avec son vice-président Monseigneur Lucio Andriche Mwandula, évêque de Saïsaï au Mozambique, ainsi que le secrétaire général le père Henri Terroise à Kabiam. Toujours lundi, le pape a reçu en audience au palais apostolique du Vatican le président de la République d'Arménie, Monsieur Armen Sarkissian, qui a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, accompagné de Monseigneur Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Au cours des entretiens qui ont été cordiaux, la satisfaction a été exprimée quant au développement et au renforcement des relations bilatérales entre le Saint-Siège et l'Arménie, pays d'ancienne tradition chrétienne. Au fil de la réunion, la tension s'est également portée sur d'autres questions de politique internationale et régionale. Le Saint-Père a également reçu les membres du Conseil ordinaire du secrétariat général du Synode des évêques, suivi de Monseigneur Nicolas Henri-Marie Denis Thévenin, nonce apostolique en Égypte et délégué apostolique du Saint-Siège auprès de la Ligue des États arabes. Parmi les hôtes de François lundi, il y avait aussi les participantes au chapitre général des Sœurs de la Charité des Saintes Jeanne Antida Touré, qui se tiendra à Rome jusqu'au 15 octobre. Dans son discours à cette dernière, François a rappelé la coïncidence avec le début du synode sur la synodalité. « Je voudrais profiter de cette coïncidence pour souligner que l'engagement que nous prenons en tant qu'Église pour croître dans la synodalité est aussi une forte incitation pour les instituts des vies consacrées », a dit le pape François. Les femmes consacrées, a-t-il ajouté, sont une présence irremplaçable dans la grande communauté en mouvement qu'est l'Église. J'aime à penser que vous, les femmes consacrées, êtes une extension de la présence féminine qui a marché avec Jésus et avec les 12, partageant la mission et apportant votre contribution particulière. Au chapitre des nominations, Monseigneur Cristiano Antonietti, secrétaire de la Nonciature, en poste à la section des affaires générales à la secrétaire d'État, a été nommé maître des cérémonies du pape. Une autre nomination lundi, c'est celle de Monseigneur Diego Giovanni Ravelli, au titre de maestro des célébrations liturgiques pontificales et chef de la chapelle musicale pontificale. Monseigneur Diego Ravelli était jusqu'à présent chef de bureau de l'Elemosineria apostolique et maître des cérémonies pontificales. Lundi, en la mémoire des saints Jean XXIII, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, a célébré une messe dans la basilique Vaticane. Dans son homélie, il a appelé à des prières spéciales pour le Liban et la Syrie qu'il visitera à la fin de ce mois d'octobre. Élevant une prière spéciale à Saint Jean XXIII, qui en tant que légat pontifical a couronné la statue de la Vierge Marie à Harissa, afin que si les lumières humaines s'éteignent dans notre cher Liban, la flamme de la foi et de l'espérance du peuple du pays du Cèdre grandisse et que les vents de la paix et de la reconstruction soufflent sur la Syrie voisine, que j'aurai la joie de visiter à la fin du mois. Tel était le cœur de l'homélie prononcée par le préfet de la Congrégation pour les Églises orientale. Du 7 au 10 octobre 2021, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Murat, a visité l'archidiocèse de Douala sur invitation de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Notre correspondante locale nous en parle.
Durant cette visite pastorale de 4 jours, Monseigneur Giulio Murat a ordonné des diacres à qui il a rappelé que la clé du bonheur et de la fécondité de la mission se trouve dans la fidélité aux promesses faites à Dieu. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale a également marqué un arrêt au grand séminaire Paul VI de Nkombodol et au séminaire Redemptoris Mater de la communauté du chemin néo-catéchuménat. Monseigneur Giulio Murat.
Ce n'est pas ma première visite, n'est-ce pas? Pas à l'archidiocèse de Douala. Je me trouve à l'aise, je vois vraiment encore une fois, et ça me remplit de joie, l'accueil des gens, la fidélité, l'enthousiasme. C'est vrai que en visitant, vous pouvez connaître. En voyant, vous pouvez connaître mieux. En connaissant, vous pouvez aimer mieux.
Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Giulio Murat, a terminé sa visite pastorale par une messe solennelle en la paroisse Saint-Pierre de Grand Hangar de Bonabéry, en présence de nombreux prêtres et fidèles. Là, commentant l'évangile du jour, il a invité le peuple de Dieu à cultiver la capacité de poser des actes ordinaires et héroïques de détachement afin d'avoir en héritage la vie éternelle. Paul Valéry Mondogo, Dédé. Pour Radio Vatican.
Les supérieurs majeurs de la République démocratique du Congo ont eu leur assemblée plénière ordinaire à Kinshasa. Quelques décisions ressortent de cette session mixte, entre autres la dissolution de l'ASUMA et de l'USUMA. Les deux organisations ont donné naissance à la conférence des supérieurs majeurs de la RD Congo. Le père Kyungu Rigobert, provincial des jésuites, en est élu président et la sœur Rita Yamba, provinciale des filles de Saint-Paul, vice-présidente.
Les deux associations des supérieurs majeurs des religieuses et religieux ont fusionné. L'Assemblée des supérieurs majeurs pour les religieux et l'Union des supérieurs majeurs pour les religieuses forment désormais la Conférence des supérieurs majeurs de la République démocratique du Congo, la COSUMA RDC. La décision a été prise par un vote à la majorité lors de l'Assemblée plénière ordinaire mixte tenue au Centre catholique Nganda de Kinshasa du 4 au 8 octobre. Le supérieur provincial des jésuites, le père Rigobert, a été élu président de la nouvelle conférence des supérieurs majeurs. La vice-présidente sera la supérieure déléguée des filles de Saint-Paul, sœur Rita Yamba. Avant l'examen et l'adoption des statuts de la nouvelle conférence des religieuses et religieux, les travaux ont porté sur le thème « Vie consacrée et témoignage d'une vie parfaite », lecture de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François dans le contexte de la République démocratique du Congo. Les religieuses et religieux se sont séparés le 8 octobre après la messe de clôture présidée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, un ancien président de l'Assemblée des supérieurs majeurs. Il a exhorté les deux associations fusionnées à regarder dans la même direction pour donner à la société le témoignage d'une vie consacrée et surtout pour aller vers les périphéries dans le choix des implantations missionnaires. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Niger, le moyen séminaire diocésain de l'archidiocèse de N'Djamena a ouvert ses portes depuis le 29 septembre 2021 pour le compte de l'année académique 2021-2022. Une messe d'ouverture de l'année a été célébrée ce 5 octobre 2021 dans la chapelle du dit séminaire à Koundoul par l'archevêque Mgr Edmond Djitangar.
Ils sont 6 jeunes venus de différentes paroisses de l'archidiocèse de N'Djamena. Après leur obtention du baccalauréat, a commencé une année d'initiation en vue de se préparer pour le grand séminaire. La communauté chrétienne de la zone pastorale de Koundoul et les responsables des mouvements qui parrainent le moyen séminaire ont répondu massivement au rendez-vous. Le père Emmanuel Toutouane, recteur du séminaire, a dès l'entame de la célébration exprimé sa gratitude pour cette année académique avant de convier les uns et les autres à implorer sans cesse le Seigneur pour le discernement vocationnel de ces jeunes. S'appuyant sur les textes du jour, Mgr Edmond Djitangar a invité les jeunes à poursuivre leur aventure vocationnelle avec le Christ comme Jonas, même si c'est difficile.
Jonas est envoyé par Dieu. Dieu lui a confié une mission difficile. Tout le monde connaît la réputation de là où Dieu l'envoie. Dieu sait que Jonas aurait des difficultés dans cette mission et Dieu est capable aussi de changer son attitude par rapport à celui qui accueille sa parole. Ces jeunes vont apprendre à devenir demain des Jonas. Ils ne feront pas toujours la volonté de Dieu, mais Dieu Quand il décide une chose, il réalise toujours. Donc, la mission que Dieu a confiée, de force de gré, Dieu porte à accomplissement.
Notons que ces jeunes seront initiés à la vie communautaire, aux études supérieures et à la vie pastorale. Séverin Dingatolum pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La Tunisie s'est dotée lundi d'un nouveau gouvernement en semaine après l'éviction du précédent cabinet par le président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. Le président de la République promulgue un décret nommant les chefs du gouvernement et ses membres, a indiqué la présidence dans un communiqué peu après la diffusion par la télévision officielle de la cérémonie de prestation de serment. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la formation du gouvernement a été confiée à une femme, l'universitaire Naila Bouden, mais celle-ci ainsi que son équipe jouiront des prérogatives considérablement réduites après le coup de force de M. Saied. Madame Bouden a été nommée le 29 septembre, plus de deux mois après le limogeage le 25 juillet du Premier ministre Hichem Mechichi par le chef de l'État qui a également gelé le Parlement et pris en main le pouvoir judiciaire. Dans un communiqué lors de la prestation de serment, Madame Bouden, 63 ans, a affirmé que la lutte contre la corruption sera le plus important objectif de son gouvernement, qui compte 25 membres outre sa chef. L'Algérie n'a pas encore pris de décision définitive sur la reconduction d'un contrat d'utilisation d'un gazoduc passant par le Maroc qui doit expirer le 31 octobre, a indiqué dimanche soir le président Abdelmadjid Tebboune. Dans un autre registre, le journaliste algérien Rabah Karech, incarcéré depuis mi-avril, a été condamné lundi à un an de prison, dont six mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles, a indiqué son avocate. M. Karech sera libéré dans cinq jours, date à laquelle il aura purgé la totalité de sa peine en tenant compte de sa détention provisoire pendant la durée du procès, a précisé l'avocate.
Radio Vatican, France-Afrique. Donatien Niembo.
Des hommes armés présumés être des rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont écumé ce week-end des villages du territoire de Beni dans le nord-est de la RDC où une source locale parle d'au moins 8 morts et plusieurs personnes enlevées. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont attaqué les villages de Mbingi et Mapassana à environ 25 km à l'ouest du chef-lieu Oicha. Là, nous avons 4 personnes tuées, 7 motos et plusieurs maisons incendiées, ainsi que les kidnappings de plusieurs personnes, a indiqué Kinos Katou, président de la société civile du territoire. Dimanche matin, selon lui, c'est le village de Mangazi, à quelques 7 km du lieu de la première attaque, qui a été ciblé par les rebelles. L'armée les a repoussés, un rebelle a été tué, a-t-il dit. Ensuite, dans l'après-midi, ils sont allés non loin de là à Matekelambi et Mabuo, où l'ennemi se trouve encore. Pour le moment, nous avons un bilan de 4 personnes tuées et plusieurs autres disparues, a ajouté M. Katou. Toujours selon lui, les victimes ont été tuées par armes blanches et par balles. La calmie que nous avons observée n'a pas duré, a-t-il déploré. Le 15 octobre 1987, l'ex-président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, était tué lors d'un coup d'État. 34 ans après, le procès des acteurs présumés de son assassinat a débuté lundi devant les tribunaux militaires de Ouagadougou. C'est un jour de vérité pour moi, ma famille et tous les Burkinabés, a déclaré la veuve de Thomas Sankara, Mariam, présente à l'ouverture de ce procès très attendu par les familles des victimes du putsch de 1987. Comme prévu, le principal accusé Blaise Compaoré n'était pas présent lundi matin devant le tribunal.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine
Santé avec Marie-Josée Mondo Boisboilou.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine concerne la célébration dimanche 10 octobre de la Journée mondiale pour la santé mentale. La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur la santé mentale dans le monde et des mesures doivent être prises pour redresser les inégalités flagrantes exposées par la pandémie a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son message. L'Organisation mondiale de la santé a publié à cette occasion l'Atlas de la santé mentale qui dresse un tableau de l'incapacité mondiale à fournir aux populations les services de santé mentale dont elles ont besoin. Alison Brunière, chargée de communication au département santé mentale et maladies non transmissibles à l'Organisation mondiale de la santé, revient sur les points saillants de ce rapport. On l'écoute.
C'est un document qu'on sort tous les 3 ans qui nous montre les progrès qui ont été faits dans le domaine de la santé mentale dans les pays à travers le monde, en particulier sur les politiques de la santé mentale, la législation, les ressources humaines investies, le financement des services de soins de la santé mentale. La bonne nouvelle, et il y en a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans ce document, c'est que 171 pays ont répondu aux questions, qui ont rempli les questions à propos de leurs ressources. Ça montre qu'ils prennent sérieusement la question de la santé mentale. Malheureusement, les autres nouvelles sont beaucoup moins bonnes. Dans le monde, la plupart des objectifs globaux en matière de santé mentale fixés pour 2020 par les gouvernements en 2013 n'ont pas été atteints. La seule des 6 qui ont été fixées est sur le suicide et la seule qui a été atteinte. Donc, ce qui nous montre qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans la santé mentale. Toujours, il est seulement 2% des budgets de santé gouvernementale sont dédiés à la santé mentale, seulement 2%, et ça n'a pas changé, pratiquement pas changé depuis quelques années. Donc, il reste beaucoup à faire.
Et bien sûr, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence un besoin croissant de soutien en matière de santé mentale. Qui sont justement les personnes les plus touchées par le problème de santé mentale et a-t-on justement des chiffres?
Effectivement, la pandémie nous a présenté beaucoup de défis dans beaucoup de domaines. Beaucoup de défis qui sont des facteurs de risque pour des problèmes de santé mentale. Par exemple, l'isolement, des problèmes d'argent, changement radical de nos habitudes, problèmes de travail, incertitude de l'emploi, sans parler, bien sûr, de la maladie causée par COVID-19 et aussi les décès des personnes de notre entourage. Donc, on sait que des problèmes de maladie mentale ont accru pendant la pandémie. Par contre, on n'a pas encore les chiffres. Ça, on aura par la suite pour savoir l'étendue de l'augmentation des problèmes de santé mentale.
Et quelle est l'importance justement d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire?
L'intégration des soins pour la santé mentale dans les services de soins primaires sont très importants. C'est une recommandation qu'a fait l'OMS depuis de nombreuses années. On sait que les soins qui sont donnés dans la communauté, dans les systèmes de santé primaires, sont beaucoup plus acceptés déjà par les personnes concernées et leurs familles. Ils sont plus accessibles et ils sont aussi plus abordables. Par contre, on a vu dans les données qui ont été fournies par les pays pour l'Atlas que dans beaucoup de pays, surtout des pays avec les moins de ressources, on voit toujours beaucoup des soins qui sont donnés dans des hôpitaux mentaux plutôt que dans la communauté. Donc, encore une fois, c'est quelque chose où il y a beaucoup à faire dans les années à venir.
Justement, comment peut-on faire pour promouvoir et prévenir la santé mentale? Quelles sont les politiques qui doivent être mises sur place?
Ça commence déjà avec l'investissement. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas assez d'argent qui est investi dans ce domaine, premièrement. Il doit y avoir des politiques qui sont mises en place par des gouvernements, qui sont financées, des plans d'implémentation qui sont financés avec suffisamment de ressources humaines pour gérer la demande, ce qui est loin d'être le cas dans beaucoup de pays. Peut-être il faut mentionner aussi le fait que dans des pays à faible revenu, il y a très peu de psychiatres et de psychologues. Dans ces contextes-là, c'est important de former des généralistes pour qu'ils puissent reconnaître et traiter des problèmes communs comme la dépression, l'anxiété de la maladie mentale.
Et comment peut-on définir justement le terme maladie mentale ou santé mentale?
Parce qu'on a tous la santé mentale, celle qui est moins bonne que d'autres. Et c'est normal quand on a ses hauts et ses bas. Par contre, il y a certaines maladies, dont la dépression, l'anxiété chronique, des troubles bipolaires, la psychose, qui sont des maladies qui sont reconnues cliniquement et qui peuvent être diagnostiquées, doivent être traitées de différentes manières.
Alison Brunier, de l'Organisation mondiale de la santé, propos recueillis par Florence Westergaard de la même institution onusienne.
Invité maladie du jour.
Notre invité du jour est encore une fois le père Pierre Jaurès Kouassi Togba, curé de la paroisse La Nativité de Niamblé dans le diocèse d'Ambegourou en Côte d'Ivoire. Docteur en théologie systématique, le père Togba Kouassi est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les personnages conspirateurs du procès et de l'assassinat de Jésus ». Dans cette deuxième et dernière partie de l'entretien que nous vous proposons, le père Togba Kouassi dénonce tous les conspirateurs de notre temps. Il commence par exhorter tous les fidèles chrétiens, tout comme Jésus, à avoir un objectif et l'atteindre. Suivant.
Jésus avait un objectif et il a atteint cet objectif. Nous également, dans notre vie de tous les jours, les gens vont conspirer autour de nous, contre nous. Évidemment, quel que soit là où vous êtes. Si vous êtes dans la vérité, soyez sûr que vous n'aurez jamais des amis. Si vous êtes dans la sincérité de votre foi, c'est sûr que vous aurez des gens autour de vous qui vont vous prendre pour un extraterrestre et autres, qui diront des choses, des diffamations, des critiques, des malveillances contre votre personne. Mais quoi qu'il en soit, comme le Christ a été objectif, sa mission, c'est donner sa vie pour que la multitude soit sauvée. Et c'est ce qu'il a fait. Peu importe ceux qui ont participé à cela, pourvu que sa mission soit atteinte. Et je crois que ce que nous devons comprendre, si nous sommes des disciples du Christ, si nous devons porter chacun sa croix, il faut avoir un objectif, l'atteindre comme Jésus a atteint son objectif.
Vous aviez envie de dénoncer cet état de notre société, surtout de nos justices, et vous passez par ces personnages conspirateurs du procès de Jésus. Vous n'utilisez pas Jésus quelque part pour faire entendre votre voix, dénoncer certaines choses de nos sociétés.
Tout baptisé est un missionnaire, tout baptisé est prophète, tout baptisé est roi. Donc le prophète dénonce les impairs de la société. Mais ce n'est pas parce que je veux dénoncer, mais c'est pour dire que Caïphe, Anne, Pilate, Hérode, Antipas, nous en avons encore aujourd'hui. Les Judas, nous en aurons toujours. Les conspirateurs autour de nous, nous en aurons toujours. Mais est-ce que cela ne soit pas motif pour baisser nos bras d'abandon, de résiliation, de refus de quoi que ce soit? Il faut dénoncer ce qu'il y a dénoncé, mais il faut dénoncer avec beaucoup, beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse. Et c'est ça qui est important. Sinon, les conspirateurs, nous en avons partout. Nous en aurons partout, dans toutes nos justices. Que ce soit les justices traditionnelles, les justices modernes aujourd'hui, nous aurons toujours des conspirations. Il n'y a rien à faire. Il y a plein de personnes qui sont condamnées injustement. Il y a des gens qu'on dénonce. Pourtant, ce sont des personnes innocentes. Mais on n'a pas pris le temps de fouiller, de mener des enquêtes pour chercher la vérité. Et bon, on s'est basé sur certaines argumentations, certains arguments. Et puis bon, et le procès a eu lieu, la condamnation. Puis bon, voilà. Et ça passe. Il y en a plein. Les journalistes condamnés partout dans le monde. Je ne vous apprends rien. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui.
Mon père, parlons de l'ouvrage en lui-même. Combien de parties comprend l'ouvrage? Combien de pages?
C'est un ouvrage de 130 pages, simple. Deux parties. La première grande partie, j'ai énuméré les personnages, leurs responsabilités, les liens entre ces différents personnages. Et la deuxième partie, j'ai énuméré les différentes étapes, la chronologie de la chose. Et il y a deux procès. Il y a eu deux procès, procès juif et procès romain. Les deux procès ont eu lieu différemment et de façon concomitante, évidemment. On envoie Jésus chez Pilate, après on envoie chez Hérode, on envoie chez Anne, on envoie chez Caïphe, ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, les chefs d'accusation du côté juif n'ont rien à voir avec les chefs d'accusation du côté romain. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que tous les témoins qui sont venus intervenir ont été payés pour qu'ils mentent. Ils ont menti et ils se sont basés sur le mensonge de ceux qu'on a payés pour condamner l'homme juste. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Deux choses. D'abord, ce livre est un livre historique, théologique, pastoral, qui va aider le chrétien catholique à vivre à mieux sa semaine sainte. Ce livre, pas qu'il a pour objectif également de dénoncer des choses, de dénonciation, ce n'est pas ça, mais c'est pour nous faire comprendre que le monde dans lequel nous sommes, il y a encore ce dont il est question de l'époque de Jésus.
Il y a encore des Judas, des Pilates.
Des Pilates, des Hérodes. Ils ont plus de moyens aujourd'hui pour nuire à l'homme par rapport à l'époque de Pilate et d'Hérode. Malheureusement, c'est dans ce monde-là que nous vivons aujourd'hui. Et ce qu'il faut dénoncer, c'est ce que le livre écrit. Mais il est moins ça qu'un livre de compréhension de vie chrétienne, de foi catholique.
Père Pierre Jaurès Kouassi Togba, nous finissons cet entretien. Votre mot de fin?
Je voudrais que les gens qui liront ce livre le lisent avec beaucoup de passion, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, et que ça ne soit pas lu comme un journal, mais que ça soit lu comme un livre de référence, un livre de chevet, un livre de foi.
Merci à vos pères.
Père Pierre Jaurès Kouassi Togbo, docteur en théologie systématique, curé de la paroisse La Nativité de Diablé en Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Françoise Niamia.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de votre fidélité. Donatien Niembo vous dit au revoir et à la prochaine.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es